السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
ان آیات کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر گواہ بنتے
ہیں فرم dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents que ce soit un riche ou un pauvre Allah est plus attentif à eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas vos vifs désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous êtes ambigu dans votre témoignage ou si vous l'éludez, souvenez-vous qu'Allah est très conscient de ce que vous faites. Ô vous qui croyez, Soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'ils auront le pardon et une très grande récompense. De temps à autre, les adversaires de l'islam accusent l'islam ainsi que les musulmans d'extrémisme et ils les accusent de faire naître de la haine et de la rancune à l'égard des non-musulmans ou d'avoir cette haine et cette rancune à l'égard des non-musulmans. Après tout acte terroriste dans le monde, que ce soit une action commise par de soi-disant musulmans ou par d'autres, ou que ce soit une action commise par des groupes soi-disant islamiques ou des organisations djihadistes, après toutes ces campagnes et ces attaques, on attribue cela aux enseignements de l'islam. Et par la suite, on s'attaque au Saint-Coran et à la personne du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, en utilisant un langage vulgaire et déplacé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la jamaat de l'imam de l'époque, la jamaat du serviteur parfait du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, répond aux attaques des adversaires de l'islam à la lumière des enseignements du Saint-Coran. En répondant à chaque vile attaque, la jamaat du Messie premier l'islam montre aux adversaires de l'islam leur vrai visage. Nous présentons différents versets qui refutent l'extrémisme et nous présentons aussi ces versets que je viens de citer en début de ce sermon. Nous présentons cela afin de prouver que l'islam est une religion qui prône la justice et pour présenter la magnificence des enseignements de l'islam. Ces préceptes de l'islam sont si sublimes que tout non-musulman imbu de justice ne pourra que faire ses éloges en entendant ses enseignements. Mais dans le même souffle, ce non-musulman va demander qui est en train de mettre en pratique ses enseignements. Ceux qui sont en contact avec les membres de la jamaat, ces non-musulmans le savent. Et généralement, ils nous le disent. Ils disent que nous voyons quelque peu la pratique de ces enseignements dans les membres de votre communauté. Mais vous, vous êtes une minorité parmi les musulmans. Vous êtes une toute petite communauté. Nous voulons voir l'image véritable de l'islam dans les autres musulmans. Et les membres de la jamaat qui sont en contact avec ces personnes répondent à celles-ci selon leur compréhension de la chose. Et dans la plupart des cas, cela laisse de bonnes impressions sur les non-musulmans. Mais nous devons aussi connaître la réalité. Et il est important de faire notre introspection. Certainement, à la lumière des enseignements du Saint-Coran et à la lumière de l'exemple du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous arrivons à convaincre les adversaires de l'islam et nous arrivons à avoir du succès jusqu'à un certain point. C'est pour cette raison que maintenant, dans le monde, lorsqu'il y a des articles publiés sur l'islam, Des fois, il cite le nom de la communauté et des fois, sans citer son nom, ces articles indiquent qu'il y a une minorité dans l'islam qui est contre l'extrémisme. L'extrémisme que nous voyons parmi les musulmans. Ils disent, voilà la Jamaat qui veut établir la justice dans le monde. Et les membres de cette Jamaat font cette déclaration qu'ils sont les seuls à pratiquer les véritables enseignements de l'islam. Quand j'entends de tels propos de la bouche des non-musulmans, et lorsque je présente les beaux enseignements de l'islam aux non-musulmans, j'ai aussi un autre souci en tête. J'ai ce souci et mon attention y est attirée, à savoir que nous devons nous aussi faire notre analyse. Jusqu'à quel point sommes-nous en train de mettre en pratique ces préceptes? En présentant ces beaux enseignements au monde, sommes-nous en train de répondre temporairement aux critiques des autres? Est-ce que cela doit s'arrêter là? Est-ce que cela suffit? Et quand vient le moment, et que le monde nous scrute, il constatera que nous ne sommes pas à la hauteur de ces enseignements. L'on pourra juger la véracité d'une communauté ou l'authenticité d'une chose quand nous passerons par des situations difficiles, quand chacun d'entre nous passera par ces difficultés, et tout en mettant en pratique les enseignements de Dieu afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et cela va se faire quand nous allons accomplir des actions s'élever, que nous sortirons de cette situation avec succès. Sinon, présenter les beautés de ces enseignements sans qu'il n'y ait de pratique de notre part ne va pas embellir notre communauté. Il y a des musulmans non-ahmadis qui présentent aux non-musulmans ces mêmes enseignements. En présentant ces enseignements de l'islam comme une preuve de la beauté de l'islam, cela va peut-être rendre attrayantes ces personnes aux yeux des non-musulmans. Ou en raison de leur qualité personnelle, ces musulmans pourront attirer l'attention de ces non-musulmans. Et ces non-musulmans cesseront de critiquer l'islam. Mais un Ahmadi doit se souvenir du fait que lorsqu'il présente au monde les beaux enseignements de l'islam, il est en train de se présenter aussi en tant que musulman Ahmadi. En même temps, il est en train de se définir comme un musulman Ahmadi. Il se présente en tant que celui qui a accepté la personne qui a été envoyée pour la renaissance de l'islam. Il se présente comme le suivant de celui qui a été envoyé par Dieu pour la réforme de l'islam. Et il se dit comme le suivant de ce Messie et de ce Mahdi, celui qui est venu présenter au monde les beaux enseignements de l'islam et celui qui a établi cette communauté. Le fait qu'un Ahmadi présente de beaux enseignements de l'islam ne doit pas suffire pour que cet Ahmadi soit digne d'éloge. Il présente en fait aux non-musulmans une communauté qui prône la paix, qui pratique la justice, qui dit la vérité et qui pratique les véritables enseignements de l'islam. C'est cette image que l'on doit présenter aux autres. Et si quelqu'un va voir des contradictions entre les paroles et les actions d'un Ahmadi, il ne va pas dire que celui-ci dit quelque chose pour faire autre chose, ou que cette personne ne dit pas la vérité, ou que cette personne ne respecte pas les conditions de la justice. Cette personne va dire que il y a un tel qui est un Ahmadi, et les Ahmadis mettent en exergue leurs vertus. Les Ahmadis disent que leur communauté est le porte-drapeau de la justice en ce temps. Mais il y a quand même parmi des Ahmadis des personnes qui sont coupables de certains crimes. Il y a par exemple des non-Ahmadis qui font des affaires avec des Ahmadis, et lorsqu'il y a des désaccords et lorsque tout cela se termine par des procès, ces non-Ahmadis m'écrivent en disant qu'il y a un tel qui est un Ahmadi et j'ai placé ma confiance en lui et celui-ci a créé des problèmes pour moi. Et maintenant, cet Ahmadi n'est pas en train de témoigner en toute justice. Et il ne m'accorde pas ce qui m'est dû en toute justice. Ainsi, un Ahmadi, par ses actions, défigure l'image de la communauté Ahmadiyya. Il laisse de mauvaises impressions concernant la Jamaat et il discrédite la Jamaat. Et c'est pour cette raison qu'il est davantage coupable. Car il annonce qu'il pratique de bonnes œuvres alors que ses actions sont contraires à cela. Le Messie promis alayhi salam avait lui aussi ce même souci. C'est pour cette raison qu'il a dit que ne dites pas être mes suivants pour ensuite me discréditer. Voilà en bref ce qu'il avait dit. C'est-à-dire, aucun Ahmadi, quel que soit son statut, ne doit pas accomplir pareille action qui pourront déshonorer le Messie promis alayhi salam et déshonorer sa Jamaat. Il est important de mettre en pratique les préceptes présentés dans ces versets, et cela, quel que soit son statut. C'est ainsi que ces préceptes feront partie de notre nature, et c'est ainsi que cela va nous empêcher de commettre des péchés. À tout niveau, il faut être conscient de ses actions. Il ne faut commettre aucun péché, aucun acte injuste, aucune action qui soit loin de la vérité ou penser à nuire à autrui. Nous n'aurons pas de telles pensées lorsque nous allons traduire dans la pratique ces enseignements et lorsque ces enseignements vont faire partie intégrante de notre nature. L'on pourra présenter les beaux enseignements de Dieu et la belle image de l'islam lorsque tout Ahmadi, quel que soit son niveau, sera le reflet de ses préceptes à travers ses paroles et ses actions. Et lorsque, à tout niveau, l'on va essayer d'atteindre les normes fixées dans ces versets, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société, que ce soit avec les siens ou que ce soit avec les autres et que ce soit avec ses ennemis. Et c'est là que nous serons considérés comme de véritables croyants. C'est là que nous allons honorer notre engagement en tant que suivants de l'imam de l'époque. Sinon, nos déclarations seront vides. Le Messie premier, alayhi salam, avait des soucis à notre sujet. Il avait peur que nous ne le déshonorions en ne suivant pas ses conseils. et nous, nous allons accroître ces soucis. Nous devons faire de notre mieux afin d'apaiser les soucis du Messie promis l'Islam ou de les faire disparaître complètement. La première chose qui a été dite ici est que nous devons faire preuve de justice en toute chose. Nous devons témoigner pour la cause de Dieu. Nos témoignages doivent être en accord aux préceptes de Dieu. Nous ne devons pas chercher des avantages personnels en présentant ces témoignages. Notre seule pensée, c'est d'essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Notre seule pensée, c'est d'essayer de faire plaisir à Dieu. Ensuite, il est dit que pour atteindre cette norme, il faut faire preuve d'équité au plus haut point. Et l'on ne pourra pas pratiquer la justice à son plus haut point sans pratiquer la vérité. L'on ne pourra pas pratiquer cela sans suivre l'ordre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a déclaré que l'on doit aimer pour les autres ce qu'on aime pour soi-même. Nous faisons des efforts pour avoir ce qui nous revient de droit. Si on laisse nos droits quelque part, nous commençons à protester, à râler. Mais quand il est question des droits des autres, nous commençons à chercher des prétextes. S'il est question de rendre justice à sa personne, nous commençons à présenter tous les versets du Saint-Coran ayant trait à l'équité. Nous présentons ces versets devant celui qui va juger notre conflit. Et au prix de grands efforts, nous allons chercher des hadiths pour conjurer celui qui a usurpé nos droits et celui qui va juger le différent de craindre Dieu. Nous allons présenter les dires du Messie promis à l'Islam. Mais lorsqu'on nous demande de témoigner en toute équité, eh bien, au lieu de témoigner en toute justice, au lieu de dire la vérité, nous commençons à faire des déclarations ambiguës pour compliquer l'affaire davantage ou pour que l'on juge l'affaire en sa faveur ou en faveur de ses proches. Un véritable croyant ne doit pas agir ainsi. Le véritable croyant a reçu cet ordre, à savoir qu'il doit toujours accorder préférence au plaisir de Dieu. Et toute autre chose va dépendre du plaisir de Dieu. Cela va se faire lorsqu'on aura le courage de témoigner contre sa personne. Lorsqu'on aura le courage de témoigner contre sa personne, et quand on ne va pas se soucier qu'en disant la vérité, en présentant ce vrai témoignage, l'on va se mettre en grande difficulté. Ou que je vais mettre en difficulté mes proches, mes enfants, et que si je commence à témoigner contre eux, ils seront en grande difficulté et je vais m'empêtrer dans des difficultés. Ou si je témoigne contre mes parents, mes enfants, mes amis, mes proches, je vais faire face à de grandes difficultés. Nous ne devons pas penser en ce sens. Au contraire, nous devons penser que nous devons toujours dire la vérité. Nous devons faire preuve de justice. Et pour cela, nous devons être prêts à tirer la colère de ceux qui nous sont proches, de nos parents et de nos aînés. Allah déclare que votre richesse, votre pauvreté, vos avantages, vos pertes, cela ne dépend pas de vos ruses ou de vos faux témoignages, ou le fait que vous êtes très loin de l'équité. Vos avantages et vos pertes dépendent de Dieu et de sa grâce. Si Dieu le désire, il pourra vous accorder des avantages. Sinon, même au prix de grands efforts, vous n'aurez aucun avantage. Et vos faux témoignages ne vous accorderont aucun avantage. Il se peut que vous en tiriez quelque avantage matériel, temporaire, mais par la suite, vous allez attirer la colère de Dieu. Vous allez subir de si grandes pertes que vous ne pourrez pas les endurer. C'est pour cette raison que vous devez faire de Dieu votre ami. Vous devez essayer de vous rapprocher de lui. Et afin de respecter toutes les conditions de la justice, vous devez toujours dire des paroles sans équivoque, sans aucune ambiguïté. Dans les relations entre époux, dans le milieu familial, dans ses relations avec la société ou dans ses relations d'affaires, il faut toujours dire la vérité et l'on doit toujours faire preuve de justice. Et au lieu d'être esclave de ses désirs et de s'éloigner de la justice, au lieu de tourner en rond et de présenter des paroles ambiguës, au lieu de cacher la vérité, au lieu de cacher le vrai témoignage, et au lieu de s'attirer la colère de Dieu, au lieu de tout cela, le véritable croyant doit toujours avoir pour objectif le plaisir de Dieu. Il y a un incident au cours de la vie du Messie promis, lorsqu'il a été appelé à témoigner. C'était une question de terre et il y avait une dispute concernant des arbres. La partie adverse savait très bien que le Messie promis disait toujours la vérité et qu'il va toujours témoigner en faveur de la vérité. Alors qu'il était question des biens de son père et de la famille du Messie promis, c'était une question de terre. Il était question de savoir à qui appartenaient certains arbres. On a appelé le Messie promis à présenter son témoignage et il a dit au juge que selon moi, ces arbres appartiennent à ces personnes et ces personnes doivent recevoir ce qui leur est dû. Les proches du Messie promis, ainsi que son père, étaient en colère contre lui. Mais le Messie promis a dit que moi, j'ai dit ce que je pensais être la vérité. Voilà la norme que nous a présentée l'imam de l'époque. Voilà la norme que nous allons devoir établir. Et le saint prophète Mohammed nous a encouragés à atteindre cette norme. Dieu déclare dans ces versets que vous pouvez tromper les gens de ce bas monde en présentant de faux témoignages. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il est dit فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. C'est-à-dire, certainement, Dieu est très conscient de chacune de vos actions. Vous ne pourrez rien lui cacher. D'une part, nous annonçons que nous voulons répandre la paix dans le monde. Nous déclarons que nous voulons nous maintenir sur les voies de la vérité et guider le monde. Voilà nos déclarations. Alors que d'autre part, s'il y a des contradictions entre nos paroles et nos actions, pour que nous ayons quelque avantage matériel insignifiant, si nous agissons ainsi, nous ne pourrons pas nous maintenir sur les voies de la vérité. Nous ne serons pas de ceux qui mettent en application la justice. Nous ne serons pas de ceux qui répandent la paix dans le monde. Au contraire, nous allons fomenter des troubles dans le monde. En tant que croyants, nous pourrons nous soulever contre toute injustice, nous pourrons arrêter toute injustice quand nous allons appliquer la justice à son plus haut point. Quand nous allons nous maintenir à un niveau très élevé dans le domaine de la vérité, lorsque nous allons témoigner et lorsque nos témoignages seront en accord aux préceptes de Dieu. Quel niveau Dieu voulait-il que nous atteignions? Dans le verset de la sourate Al-Maïda que je viens de citer, Dieu nous fait comprendre que cette justice ne doit pas se limiter à notre société, à notre cercle restreint, mais que nous devons aussi traiter équitablement notre ennemi. Dieu nous fait comprendre que si votre ennemi veut que vous jugiez en toute équité, vous devez le faire en toute justice. L'ennemi doit être certain que vous allez toujours dire la vérité et que vos paroles seront en accord à la justice, où vous devez faire comprendre à l'ennemi que le croyant accomplit toute action en se maintenant sur les voies de la taqwa. Il accomplit tout cela pour avoir le plaisir de Dieu. Et l'hostilité à l'égard de n'importe qui ne doit nous détourner de la justice et de la vérité. Nous annonçons que nos cœurs sont exempts de toute inimitié. Nous annonçons que nous n'avons de haine à l'égard de personne. Mais l'hostilité de l'ennemi, sa rancune, son inimitié, ne doivent pas nous pousser à essayer de nuire à sa personne en nous écartant de la justice. Voilà l'enseignement des plus sublimes que nous présentons à des non-musulmans. Et c'est ainsi que nous leur présentons les beautés des enseignements de l'islam. Et en entendant nos propos, ils veulent connaître davantage à propos de l'islam. Ainsi, nous devons nous souvenir du fait que certains de nos paroles vont attirer l'attention du monde. Nous disons que nous allons présenter de vrais témoignages. Nous disons que nous allons nous maintenir sur les voies de la justice. Nous disons que nous voulons mettre fin à toute inimitié dans la société. Nous disons que nous voulons présenter la paix au monde. Toutes ces déclarations vont attirer l'attention du monde lorsque nous-mêmes, en premier, nous allons traduire cela dans la pratique. Dieu a placé de grandes responsabilités sur nos épaules. Il a déclaré que vous devez être ferme dans l'application de la justice, c'est-à-dire vous devez aller en profondeur. Qawam signifie aller au fond des choses et accomplir une action de manière constante et continuelle afin d'établir la justice. Puisqu'il est question ici de justice, cela veut dire que vous devez aller au fond de la chose. Vous devez essayer d'établir la justice de manière constante et faire preuve de persévérance. Vous devez faire des efforts infatigables et soutenus. C'est cela qui va établir la paix dans le monde et c'est ainsi que le monde va recevoir le message de paix. Aujourd'hui, c'est la tâche d'un véritable croyant, d'un véritable Ahmadi, que d'établir la justice dans le monde et de répandre la vérité et de garantir la paix et la sécurité. Et pour cela, il doit le faire de manière continuelle en ayant en tête les aspects les plus subtils de la justice. C'est là la tâche d'un Ahmadi. Aujourd'hui, ce sont les musulmans Ahmadi qui annoncent que nous sommes les véritables musulmans. Les Ahmadis annoncent que nous sommes les véritables croyants parce que nous avons accepté l'imam de l'époque, parce que nous avons compris les véritables enseignements de l'islam. Nous n'avons pas tiré un plaisir intellectuel de ces commandements divins quand nous avons accepté l'imam de l'époque. Mais nous faisons aussi des efforts pour être des exemples pratiques de ces commandements divins. Ainsi, nous devons faire notre analyse et voir jusqu'à quel point nous sommes en train de nous maintenir sur les voies de la justice et de la vérité. Et nous allons devoir juger nos cœurs. Le Messie premier alayhi salam lui-même avait témoigné contre sa personne et il avait témoigné contre son père et n'avait accordé aucune importance à des avantages matériels. Aujourd'hui, nous qui disons être ses suivants, est-ce que nous sommes en train de faire des efforts pour atteindre la même norme? Si nous sommes en train de faire ces efforts pour atteindre cette norme, eh bien, nous allons devoir nous demander pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de confiance dans nos foyers. Dans ces maisons où il n'y a plus de confiance, On doit se poser cette question. Pourquoi cela? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'amour entre les relations entre époux? Pourquoi est-ce que les enfants sont tourmentés pour cette raison? Pourquoi les frères sont-ils en train de s'éloigner les uns des autres? En raison des suspicions, en raison de l'absence de la vérité, pourquoi ces relations sont-elles en train de se briser? Ces business qui étaient basés sur des relations amicales, pourquoi est-ce que cela se termine en mésentente, en procès? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de procès dans le Qada? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Ahmadis qui sont en train de s'intenter des procès? Il est évident qu'il y a des contradictions entre l'état de son cœur et entre l'état externe ou ses paroles. On a fixé certaines normes pour sa personne et d'autres normes pour les autres. Tout Ahmadi doit se soucier à ce sujet. Tout Ahmadi doit se soucier à ce sujet, qu'il soit un responsable de la Jamaat ou qu'il soit un Ahmadi ordinaire. Nous avons tous cette tâche immense que d'établir la justice et de répandre la vérité dans le monde. Et comment pourrons-nous accomplir cette action en nous réformant? Comment pourrons-nous le faire afin d'avoir le plaisir de Dieu et pour que nous puissions profiter des promesses divines suite au pardon de Dieu, afin que nous puissions être récompensés par Dieu? Pour cela, nous allons devoir regarder de près les actions qui sont préconisées par Dieu et nous allons devoir les traduire dans la pratique. Le Messie premier Islam a déclaré que il n'y a pas de plus grande forteresse que la protection de Dieu. Il n'y a pas de plus grande forteresse que la protection de Dieu. Mais aucune œuvre incomplète n'accordera quelque avantage. Quand on est en train de mourir de soif, est-ce qu'une goutte d'eau suffira pour étancher sa soif? Lorsqu'on est en train de mourir de faim, est-ce qu'une seule graine ou une seule bouchée suffira pour se rassasier? Certainement non. Tant que l'on n'étanche pas sa soif complètement, et tant que l'on ne se rassasie pas complètement, l'on ne sera pas satisfait. De même, lorsque les actions ne seront pas complètes et parfaites, l'on ne verra pas les fruits et les résultats escomptés. Les actions incomplètes ne suffiront pas pour plaire Dieu. Et ces actions ne seront pas bénies par Dieu. Voilà la promesse faite par Dieu. Il déclare : accomplissez ces actions pour mon plaisir et je vais vous bénir. Ainsi, Dieu nous a confié la responsabilité de transmettre le message de paix au monde et pour cela, nous allons devoir faire preuve de justice à tout niveau. Nous allons devoir rétablir la vérité. Et l'on pourra établir la justice lorsqu'on va connaître à fond les commandements de Dieu et lorsqu'on va traduire cela dans la pratique. Lorsqu'on va connaître à fond ses devoirs envers Dieu et lorsqu'on va traduire cela dans la pratique. Et lorsqu'on va connaître à fond ses devoirs envers les hommes et lorsqu'on va suivre les préceptes de Dieu à ce sujet et lorsqu'on va mettre cela en pratique. Que Dieu nous en accorde la possibilité afin que nous puissions établir la justice dans nos maisons, dans nos sociétés, pour en faire l'image du paradis, et afin que nous puissions aussi accomplir nos devoirs quant à la prédication en suivant les enseignements de l'islam. Nous devons expliquer au monde la vraie justice afin de le protéger de ce gouffre de la destruction. Le monde est en train de courir à grande vitesse vers cette grande destruction. Il n'y a plus de justice ni parmi les musulmans, ni parmi les non-musulmans. Non seulement qu'il n'y a plus de justice, mais les atrocités sont en train d'atteindre leur comble. Seule la Jamaat Ahmadiyya pourra ouvrir les yeux du monde et prévenir le monde de ces atrocités afin que le monde ne tombe pas dans ce gouffre. Chacun d'entre nous, dans son cercle respectif, doit faire des efforts en ce sens. Et en faisant ces efforts, nous devons aussi nous consacrer entièrement à la prière. L'injustice que nous voyons dans les pays musulmans et les conséquences de leurs mauvaises actions les ont empêtrés davantage dans des troubles internes. Mais d'autre part, ils sont entourés par des dangers externes. Ces dangers sont arrivés jusqu'à leurs portes. Apparemment, une grande guerre est sur le point de s'éclater. Même si le monde n'ignore pas ses conséquences, en tout cas, le monde n'accorde pas aucune importance à cela. En de telles situations, les serviteurs du Messie, du Saint-Prophète, doivent jouer leur rôle et protéger le monde de la destruction. Et pour cela, nous devons nous consacrer comme il se doit à la prière. Que Dieu fasse que nous puissions nous en acquitter et que nous puissions protéger le monde de la destruction.